Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un débat qui agite pas mal le Maroc. Faut-il investir des milliards ? On parle de 14,5 milliards de dirhams dans de nouveaux stades, notamment pour le Mondial 2030.
Oui, c'est la grande question, surtout quand on pense aux besoins ailleurs, dans les hôpitaux, les écoles.
Exactement, prestige international contre, disons, urgence du quotidien. On va essayer d'y voir plus clair, de dépasser un peu les slogans. Pour ça, on s'appuie sur un dossier très solide d'EcoBusiness, daté du 3 novembre 2025. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, les chiffres, les montages financiers, les blocages aussi.
Est-ce que ça révèle sur l'économie, la confiance, même certains réflexes un peu spécifiques ici face à l'incertitude ?
Voilà. Bon, alors ouvrons ce dossier.
Alors, ce dossier, il est vraiment riche. On va aborder plusieurs points clés. D'abord, le financement de ces stades. Comment ça marche vraiment ? Est-ce que c'est viable ?
Oui, le nerf de la guerre, quoi.
Exactement. Ensuite, on va s'attaquer à ce paradoxe des secteurs sociaux. Pourquoi l'argent prévu pour la santé, l'éducation a tant de mal à être dépensé ? C'est juste un manque de budget ou c'est autre chose ?
Question importante.
On verra aussi l'impact direct, très concret, de ces énormes chantiers sur le BTP, le bâtiment.
Oui, ça doit chauffer dans le secteur.
Et puis on terminera avec un outil assez nouveau et je trouve passionnant, l'indice marocain d'incertitude économique. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le moral ambiant et sur des comportements assez locaux ?
Parfait. Commençons par l'argent alors. Le financement des stades. Le dossier parle d'un modèle marocain assez sophistiqué, sur le papier du moins. Il y a Sonarge, la société qui gère les stades comme opérateur, et puis un OPCI, c'est un organisme de placement immobilier.
Oui, une structure financière qui serait propriétaire des murs, en gros, et qui louerait les stades à Sonarge.
Et c'est ça. L'investissement annoncé, c'est bien 14,5 milliards de dirhams pour 7 stades. Mais cette idée qui circule là d'un financement zéro dirham public, ça paraît un peu...
Un peu trop beau pour être vrai.
C'est justement là que l'analyse d'EcoBusiness met le doigt. Le journal doute sérieusement de cette affirmation zéro coût public. Il pointe des lignes budgétaires bien réelles, déjà existantes.
Ah oui, lesquelles par exemple ? Par exemple, 500 millions de dirhams inscrits au budget 2024. Juste pour la mise à niveau de stade pour la CAN 2025. Ce n'est pas rien.
Effectivement.
Et en plus, il y a des enveloppes globales infrastructures sportives dans les lois de finances. 1,4 milliard en 2024, 1,2 milliard prévu pour 2025.
Et on ne sait pas précisément comment cet argent est utilisé.
C'est un peu flou, oui. L'article parle d'une certaine opacité dans la ventilation. Donc affirmer qu'il n'y a aucun dirham public dedans, ça semble... difficile à tenir.
D'accord. Et même au-delà de ces budgets déjà existants, est-ce que le modèle lui-même, avec Sonarge qui loue à l'OPCI, est viable ? Parce qu'il faut que Sonarge puisse payer ce loyer, j'imagine.
C'est le point crucial, absolument. Une fois les stades livrés, on estime le loyer annuel que Sonarge devrait payer à environ 1 milliard de dirhams.
1 milliard par an.
Oui, c'est considérable. Surtout quand on regarde la santé financière actuelle de Sonarges. Elle est déjà, disons, fragile.
C'est-à-dire ?
Bon, le chiffre d'affaires augmente, certes. D'environ 11 millions en 2021 à 46 millions en 2023 et peut-être 57 millions prévus pour 2024. Mais le résultat net, lui, il est structurellement dans le rouge. Déficit de 20 millions en 2021 et on prévoit un déficit de 47 millions pour 2024. En clair, cette société dépend déjà de l'argent de l'État pour boucler ses fins de mois.
Donc, si je résume, on demande à une entreprise déjà déficitaire, qui vit sous perfusion de l'État, de payer un loyer annuel d'un milliard en plus. Comment c'est possible sans que l'État remette la main à la poche, au final ?
La seule façon d'éviter ça, c'est que ces stades deviennent hyper rentables. Vraiment.
Comment ?
La clé, ce serait la multifonctionnalité. Il ne faut pas juste y jouer au foot, il faut que ça tourne à plein régime. Grands concerts, salons, congrès, événements d'entreprise, il faut en faire de vraies machines à cash.
Oui, mais cette idée de stade multifonction miracle, on l'a déjà entendue ailleurs, non ? Et souvent, ça finit en éléphant blanc, ces stades immenses et vides après l'événement.
C'est une objection tout à fait pertinente. Le risque existe, c'est clair.
Qu'est-ce qui garantirait que ça marche ici ? Surtout en dehors des très grandes villes comme Casa ou Tanger ?
Vous avez raison, le potentiel n'est pas le même partout. Casablanca, Tanger, peut-être Marrakech avec le tourisme, elles ont des atouts. Pour d'autres villes, c'est beaucoup plus incertain. Le risque d'avoir des équipements trop grands, trop chers et déficitaires est bien là. Et si le modèle ne tient pas, si les revenus ne suivent pas...
C'est le contribuable qui paye.
Inévitablement. C'est pour ça qu'EcoBusiness insiste tellement sur la transparence. Il faut des chiffres clairs, publiés régulièrement pour chaque stade.
Quel genre de chiffres ?
Des indicateurs de performance, des KPI, comme on dit. La fréquentation réelle, les recettes par type d'événement, les coûts, les emplois créés. Sans ce suivi public et rigoureux, on avance un peu dans le brouillard.
Justement, venons-en à cet argument social. L'opposition classique, les milliards pour les stades contre les besoins des hôpitaux, des écoles. Avec cet argent, on aurait pu faire tellement pour la santé. Est-ce que cette concurrence directe, elle est vraiment fondée d'après le dossier ?
L'analyse d'EcoBusiness suggère que c'est plus compliqué que ça. C'est une vision un peu trop simpliste. Le vrai problème des secteurs sociaux, comme la santé ou l'éducation, ces dernières années au Maroc, ce n'est pas tant le manque d'argent voté dans les budgets.
Ah bon ?
Mais plutôt l'incapacité à dépenser cet argent efficacement. Les crédits alloués ne sont pas toujours utilisés.
Attendez, vous dites que le problème principal, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent, mais qu'on n'arrive pas à le dépenser. Ça va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues, non ?
C'est exactement ça. Et c'est là tout le paradoxe. Les chiffres d'exécution budgétaire cités pour mi-2025 sont édifiants.
Donnez-nous quelques exemples.
Pour la santé, sur 9 milliards de dirhams prévus pour l'investissement, seulement 38% avaient été réellement engagés à mi-année. 38%.
Moins de la moitié.
Et pour l'éducation nationale, c'était encore pire. À peine 28% des 8,2 milliards d'investissements réalisés.
28%. C'est très faible.
Et ça ne touche pas que les gros projets. Même pour acheter du matériel ou pour les dépenses diverses, les taux d'exécution sont bas. 51,6% et 40,3% respectivement. Donc on vote des budgets, mais l'argent reste comme bloqué dans les tuyaux. Il ne se transforme pas assez vite en résultats concrets sur le terrain.
Mais pourquoi ? Pourquoi cet argent ne sort pas ? Où est-ce que ça coince ?
Le diagnostic qui ressort, c'est celui d'une crise d'organisation, plus qu'une crise d'argent. Les problèmes sont connus, en fait. Une maîtrise d'ouvrage public parfois faible, c'est la capacité à bien piloter un projet, des procédures administratives hyper lentes, des capacités techniques inégales selon les régions.
La lourdeur administrative classique.
Voilà, et un suivi de chantier qui peut laisser à désirer. Du coup, l'argent dort.
Et quelles solutions sont évoquées pour débloquer ça ?
Plusieurs pistes. Par exemple, utiliser plus systématiquement la maîtrise d'ouvrage déléguée pour les gros projets. Confier la gestion à des spécialistes externes pour aller plus vite et mieux.
D'accord.
Créer aussi des cellules de projet au niveau local pour aider ceux qui portent les projets. Ou encore, mettre en place des catalogues d'achats groupés, des listes de matériel standardisées pour simplifier les commandes.
En gros, réformer le fonctionnement de l'administration pour qu'elle puisse utiliser l'argent qu'elle a déjà.
Exactement. Le défi, c'est moins de trouver plus d'argent que de savoir dépenser mieux et plus vite celui qui est déjà là pour le social. La concurrence avec les stades serait donc moins une question d'argent que d'efficacité administrative et de capacité à faire.
D'accord. Autre point souvent soulevé, l'effet d'éviction. L'idée que ces grands chantiers publics pourraient pomper toutes les ressources et nuire à l'investissement privé. Qu'en dit le dossier ?
Alors, l'article fait une distinction importante. Sur le plan purement financier, il n'y aurait pas vraiment d'éviction pour l'instant.
C'est-à-dire ?
Les entreprises trouvent encore à se financer.
Oui.
Les banques ont beaucoup de liquidités, les taux d'intérêt sont plutôt stables. L'endettement public pour les stades ne semble pas, à ce stade, empêcher les entreprises privées d'emprunter.
Mais, il y a un mais, je sens.
Oui. En revanche, l'article souligne une éviction physique. Et celle-là, elle est bien réelle et très tangible.
Une éviction physique ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Les autoroutes, les ports, les nouveaux hôpitaux universitaires mettent une pression énorme sur les capacités du secteur du BTP.
Concrètement ?
Concrètement, ça devient très dur et plus cher de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Des chefs de chantier, des ouvriers spécialisés, des ingénieurs, même le matériel lourd, les grues, les engins, tout est sursollicité. Les prix des matériaux peuvent aussi flamber.
Et ça pénalise les entreprises privées ?
Directement. Celles qui construisent des logements, des bureaux, elles se retrouvent en concurrence pour les mêmes ressources qui deviennent rares et chères. Leurs projets prennent du retard, leurs coûts augmentent.
Ce qui peut se répercuter sur les prix finaux ou réduire leurs marges.
Exactement. C'est comme si l'État, avec tous ses projets, aspirait toutes les capacités du BTP, laissant moins de place pour les autres.
Et face à cette saturation, quelles solutions sont proposées ?
Trois pistes principales ressortent. D'abord, mieux étaler les grands projets publics dans le temps. Éviter de tout lancer en même temps pour lisser la charge.
Une meilleure planification, en somme.
Oui. Ensuite, encourager l'industrialisation du BTP. Développer la préfabrication en usine pour construire plus vite et avec moins de main-d'œuvre sur les chantiers.
Et la troisième ?
Un effort massif et urgent sur la formation. Il faut plus de gens qualifiés dans tous les métiers du bâtiment. C'est crucial.
Revenons au stade. Au-delà des questions d'argent et de BTP, quel impact peuvent-ils vraiment avoir sur les villes, sur les régions ? Est-ce que ce sont de vrais moteurs de développement ou juste des équipements coûteux une fois le mondial passé ?
Le potentiel existe, mais il n'est pas automatique, loin de là. Pour qu'un stade tire vraiment une ville vers le haut, il faut plusieurs conditions.
Lesquelles ?
Une super accessibilité, surtout en transport en commun, sinon c'est la paralysie assurée. Une programmation hyper riche et variée, pas que du foot, pour que ça vive toute l'année.
Oui, la fameuse multifonctionnalité dont on parlait.
Exactement. Et puis, il faut que le stade s'intègre dans un vrai projet de quartier, avec des hôtels, des restos, des commerces, un lieu de vie, quoi.
Et la gouvernance, la transparence, là aussi c'est clé, j'imagine.
Fondamental. On revient aux KPIs. Publier les chiffres réels de fréquentation, de recettes, etc., c'est indispensable pour savoir si l'argent public est bien utilisé. Il faut aussi gérer les risques, comme la spéculation sur les terrains autour, et surtout s'assurer que le projet bénéficie concrètement aux habitants, emploi, formation.
Et cette ambition d'un Green Mondial 2030, ce côté écologique, est-ce que c'est sérieux ou c'est juste pour l'image ?
L'intention est bonne, c'est sûr. Parler de conception bioclimatique, d'énergie renouvelable, de gestion de l'eau, c'est dans l'air du temps. Mais l'article met en garde contre le greenwashing, le vernis écologique.
Comment savoir si c'est du solide ?
Il faut des engagements chiffrés, des objectifs mesurables et surtout des données publiées sur la performance réelle. Le bilan carbone du stade, construction et fonctionnement, sa consommation d'eau, d'énergie. Sinon, ça reste du discours.
C'est encore une question de transparence, finalement.
Toujours. Et l'article souligne un point essentiel, l'impact énorme des déplacements des spectateurs. Assurer des transports en commun efficaces et peu polluants pour aller au stade, c'est le grand défi écologique de ces projets. Au fond, si on prend un peu de hauteur, ces grands projets, stades inclus, ce sont des tests. Des tests de la maturité des institutions marocaines.
Comment ça ?
Leur capacité à bien planifier, à financer durablement, à exécuter efficacement, à être transparente, à mesurer l'impact. C'est ça le vrai enjeu. La gouvernance, au sens large, c'est vraiment la clé.
Cette question de confiance, de perception, de clarté, ça nous amène tout naturellement à l'autre partie du dossier Ecobusiness, cet indice d'incertitude économique, le EPU marocain. C'est basé sur l'analyse de centaines de milliers d'articles de presse, c'est ça ?
Oui, plus de 350 000 articles de la presse nationale analysés sur une longue période pour repérer la fréquence de mots liés à l'incertitude économique et politique. C'est une approche assez innovante ici.
Et qu'est-ce qui nous apprend cet indice EPU ?
Déjà, qu'il est plus pertinent pour comprendre l'économie marocaine que les indices globaux. Il colle mieux au cycle et aux chocs spécifiques du pays, comme une sécheresse ou l'annonce d'une réforme dont on ne connaît pas bien les détails. Il capte mieux le bruit local qui influence les décisions.
Et comment cette incertitude mesurée par l'indice se répercute concrètement dans l'économie ?
On retrouve les mécanismes classiques. Quand l'incertitude monte, l'indice EPU grimpe, eh bien les entreprises deviennent frileuses. Elles reportent les investissements, elles arrêtent d'embaucher. L'attentisme.
Et les ménages ?
Eux, ils ont tendance à épargner plus, par précaution. Ils reportent les gros achats. Et puis l'incertitude peut aussi rendre les banques plus prudentes. Donc le crédit devient plus cher ou plus difficile à obtenir.
Mais le dossier pointe un comportement très spécifique au Maroc quand l'incertitude monte, quelque chose d'assez frappant.
Oui, et c'est un des résultats les plus intéressants de l'étude. En période de forte incertitude, on voit une augmentation très nette de la demande de billets de banque, surtout les grosses coupures, les billets de 210 dirhams.
Ah oui, le fameux réflexe de thésaurisation, le cash sous le matelas.
Exactement, un repli massif vers le liquide.
Et pourquoi ce réflexe ? Qu'est-ce que ça dit de la psychologie collective, ce besoin de cash ?
C'est fascinant de chercher à comprendre ça. L'étude suggère plusieurs pistes. Peut-être une sorte de mémoire collective liée au poids de l'informel où le cash est roi. Peut-être aussi un rapport un peu méfiant d'une partie de la population vis-à-vis des banques, vu comme complexe ou pas totalement sûr. Et puis, il y a la perception des risques. Peur de perdre son emploi, impact de la sécheresse, flou sur les réformes. Face à ça, avoir des biais, ça donne un sentiment de sécurité immédiate, plus tangible que des chiffres sur un compte.
Mais ce réflexe, au-delà de la psychologie, il a des conséquences économiques négatives, j'imagine.
Oui, au niveau macroéconomique, c'est plutôt un problème. Quand l'argent sort des banques pour aller sous les matelas, ça réduit les dépôts bancaires.
Et donc, moins de capacité pour les banques de prêter de l'argent.
Voilà. Moins de crédit potentiel pour financer les entreprises, l'immobilier. Ça peut freiner l'économie. La défiance, en quelque sorte, pèse sur la croissance. D'ailleurs, l'étude montre bien une corrélation inverse. Quand l'indice d'incertitude EPU monte, l'indice de confiance des ménages, lui, il baisse. Ça prouve que la confiance, ce n'est pas juste un sentiment, c'est un vrai moteur économique.
Donc, si je suis bien, cet indice EPU, au final, il mesure pas seulement l'incertitude économique perçue, il reflète aussi la qualité de l'action publique et de sa communication.
C'est tout à fait ça. C'est une des conclusions fortes. L'indice réagit beaucoup à la clarté ou au manque de clarté de la communication du gouvernement, à la prévisibilité des politiques, à la cohérence des messages.
Une réforme annoncée de façon floue, un calendrier pas clair, ça fait monter l'indice EPU.
Exactement. À l'inverse, une communication transparente, des objectifs clairs, des délais respectés, une bonne explication des changements, ça réduit l'incertitude, ça rassure, ça redonne confiance. L'EPU devient un peu un baromètre de la lisibilité de la gouvernance.
Et ça rejoint ce qu'on disait sur la transparence nécessaire pour les stades, finalement. C'est le même besoin d'informations claires partout, hein ?
Absolument. Le lien est direct. Le manque d'infos fiables, que ce soit sur un stade ou une réforme, ça nourrit l'incertitude et la méfiance. C'est pour ça que le dossier Eco-Business ne fait pas que présenter l'indice. Il propose aussi des actions pour réduire cette incertitude. Il parle d'un plan anti-brouillard.
Ah oui, en 7 points. Qu'est-ce qu'il y a dedans, en gros ?
L'idée est d'améliorer la visibilité, donc une communication publique plus claire, plus pédagogue, surtout sur les réformes. Publier des calendriers précis et s'y tenir. Mieux expliquer pourquoi on fait les choses.
Logique.
Sur le plan financier, simplifier les produits bancaires pour encourager les gens à moins garder de cash chez eux. Et surtout, une idée phare, rendre cet indice EPU public.
Le publier régulièrement.
Oui, publier les données, la méthode et l'utiliser comme outil de pilotage pour le gouvernement, mais aussi comme base de discussion avec tout le monde, citoyens, entreprises, un tableau de bord public du brouillard ambiant, en quelque sorte.
Très intéressant. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, le débat sur les stades, pour ou contre, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Les vrais sujets, c'est la viabilité économique, la transparence et surtout la capacité de l'État à faire les choses.
C'est ça.
En parallèle, l'argent pour le social, santé, éducation. Le problème, c'est moins le manque de budget que les blocages administratifs qui empêchent de le dépenser efficacement.
Exactement. Une crise d'organisation avant tout.
Et enfin, cet indice EPU marocain, c'est un outil précieux. Il montre l'impact de l'incertitude, révèle des réflexes locaux, comme le repli sur le cash, et prouve à quel point la clarté politique est vitale pour la confiance économique.
Tout à fait. Le fil rouge, c'est vraiment cet impératif de transparence, de mesure et de redevabilité. Pour les stades, il faut des chiffres publics pour juger. Pour le social, il faut comprendre où ça bloque pour réformer. Pour les politiques économiques, il faut des données comme l'EPUI partagées pour éclairer les choix. Au final, c'est la confiance qu'il faut construire et maintenir. Confiance dans les institutions, dans l'avenir. C'est seulement comme ça que l'économie du prestige et l'économie du quotidien pourront peut-être arrêter de s'opposer et commencer à avancer ensemble.
Et pour finir, une petite réflexion. Et si, au-delà des chiffres, des milliards, des stratégies, tout cela nous forçait surtout à nous interroger sur la qualité de notre débat collectif, sur notre capacité à discuter calmement, avec des faits, de l'avenir qu'on veut vraiment construire. C'est peut-être ça le chantier le plus essentiel.